Tendance RH en partenariat avec JobSphérique.
Bonjour, bienvenue dans Tendance RH, l'émission des RH innovants. Aujourd'hui, Philippe Gabillier, professeur de psychologie et de management à l'ESCP Europe, vient nous parler de l'optimisme chez les leaders et chez tout un chacun. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'une femme ou un homme optimiste ?
Ah, on va dire qu'un homme ou une femme optimiste, c'est quelqu'un qui perçoit le monde comme si c'était d'abord et avant tout un réservoir de possibilités. C'est ça, dans le fond. On pourrait presque dire qu'un optimiste, c'est un possibiliste. C'est quelqu'un qui va d'abord voir ce qui va bien dans la réalité, quelle qu'elle soit, qui va être capable aussi de se projeter dans l'amélioration des choses. On peut trouver des solutions, on n'a pas tout essayé, etc. Et c'est quelqu'un qui va probablement professer un amour immodéré pour l'action, plutôt pour le pari sur l'action.
Donc en fait, être optimiste, ce n'est pas être naïf.
Non, la naïveté, en fait, elle peut intervenir si on est optimiste dans un écosystème, dans un environnement qui est délibérément hostile, où on ne maîtrise rien. Oui, il peut y avoir effectivement naïveté dès l'instant où il y a risque maximal et manque de maîtrise. Mais globalement, non. Être optimiste, c'est aussi avoir un rapport aux autres pour donner envie. C'est d'ailleurs pour ça que ça a un lien aussi avec le leadership et l'entreprise. Dès l'instant où on est un homme ou une femme qui a, non pas charge d'âme, mais charge d'état d'âme, c'est-à-dire on est parent, on est éducateur sportif, on est prof, on est manager, bon, peu importe. Dès l'instant où les autres attendent de voir comment moi je vais interpréter les situations, me projeter, décider pour eux-mêmes se déterminer, on pourrait presque dire que l'optimisme dans le monde dans lequel on vit est un devoir moral pour donner de l'énergie aux autres.
Alors tout un chacun a une configuration pour être à la fois optimiste et pessimiste. Donc l'optimiste, c'est celui qui aura une grille de lecture particulière, c'est laquelle ?
Ben, disons que la grille de lecture, les deux configurations, elles sont innées. Oui. On pourrait dire, pour employer un langage informatique, que quand on est, notre optimisme et notre pessimisme sont installés d'office. C'est-à-dire qu'un petit bébé, il a hérité ça du génome, la capacité à avoir peur quand c'est nécessaire et la capacité à espérer. Mais après, l'éducation vient s'en mêler. Donc, nos figures d'autorité, nos parents vont faire de nous, ainsi que les événements de la vie d'ailleurs, finiront par faire de nous un homme ou une femme dont les autres diront il ou elle est plutôt optimiste ou pessimiste, un trait de caractère. Mais au-delà de ça, il y a aussi la décision délibérée. On pourrait presque dire la stratégie de comportement. Je vais décider à un moment donné, dans une situation donnée, d'adopter une stratégie optimiste, ne serait-ce que parce que c'est ma stratégie privilégiée pour donner envie aux autres de se mettre en mouvement, de résister aux difficultés, de réessayer, de ne pas baisser les bras, et ainsi de suite.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas être optimiste tout seul dans son coin, il faut agir. C'est l'action qui légitime, enfin pas qui est légitime, mais qui pousse, qui diffuse cet élan d'optimisme.
Oui, c'est d'ailleurs à l'image, vous savez, de l'histoire et de la nature humaine. Le Homo sapiens, depuis la nuit des temps, a assez rapidement compris que pour évoluer, il fallait se mettre en mouvement, se mettre à plusieurs, partager, et pour partager tout, d'ailleurs, partager l'avoir, partager le faire, bâtir ensemble, partager le savoir, voilà.
Alors, qu'est-ce qui nous pousserait aujourd'hui à être plus optimiste que pessimiste par les temps qui courent ?
Déjà, on vit quand même dans un environnement, si je prends l'exemple de l'écosystème qui est le nôtre, vous voyez, on est aujourd'hui en Europe occidentale, on vit dans un monde en paix, on a très peu de chances de voir nos enfants mourir avant nous. Globalement, la maladie recule. Qu'on le veuille ou non, au niveau macro, la pauvreté recule. Les technologies permettent de faire des choses et vont continuer à permettre de faire des choses absolument formidables. On est en passe de vaincre des maladies, je dirais, qui ont pourri notre société depuis des siècles et des siècles. Moi, je trouve que l'intelligence humaine n'a pas encore donné tout son potentiel. Alors bien évidemment, comme c'est puissant, ça crée du dégât. On a des dégâts climatiques, on est dans un monde où il y a encore beaucoup trop d'inégalités. Mais voilà, il ne faut jamais oublier qu'en fonction de nos critères actuels, à la fin du XVIIe siècle, 80% de la population mondiale était en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 15%, c'est beaucoup trop, mais il n'y en a plus que 15%. Donc on est sur une pente, je crois que c'est André Gide qui disait « Les êtres humains sont faits pour suivre leur pente à condition que ce soit en montant ». Ça, je crois que c'était une citation optimiste de sa part.
Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'avancées technologiques qui vont nous permettre peut-être d'aussi lutter contre toutes les dérives climatiques, environnementales.
Oui. Et surtout, ce qui peut nous rendre optimistes aussi, c'est le fait que le monde a toujours été surprenant et plein d'inattendus.
Ça,
vous voyez,
vrai.
il y a à peine 20 ans, on ne savait même pas qu'il existerait un jour quelque chose qui s'appellerait l'iPhone, Twitter, les réseaux sociaux, la lecture et le travail sur le génome. On se rend compte que le futur a toujours été surprenant, parfois dans le mauvais sens, bien évidemment, mais aussi dans le bon sens. Donc, de toute façon, presque statistiquement, mathématiquement, il va nous arriver des choses inattendues, extraordinairement passionnantes dans les décennies qui viennent.
Oui. Alors pour cela, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'optimisme au sein des entreprises. Donc quel est votre regard, vous, de l'entreprise et de sa maturité en termes d'optimisme ?
Je pense que les hommes et les femmes des entreprises préféreraient effectivement tous fonctionner en mode optimiste. D'ailleurs, certains, de par la nature même de leur métier, vont le faire naturellement. Moi, j'ai travaillé pendant des années dans le monde du commerce, des vendeurs, les commerciaux. Les commerciaux sont des gens qui sont naturellement optimistes parce que s'ils ne le sont pas, ils ne vont pas tenir le coup. Les hommes et les femmes de R&D sont des gens optimistes. Bon. Et puis, il existe par ailleurs, au sein même des organisations, des réalités. Des réalités qu'on appelle les process, qu'on appelle les systèmes d'information, qu'on appelle la technostructure, et qui, malheureusement, sont là pour, entre guillemets, nous ramener sur Terre. Et l'optimisme va être menacé. Il va être menacé par un réalisme parfois un peu destructeur d'envie, d'énergie. C'est vrai que le monde de l'entreprise n'est pas toujours là pour nourrir nos rêves. Parfois, les procédures, par exemple, les plans d'action peuvent tuer les rêves. Mais à ce jour, on se rend compte quand même que le rêve a toujours gagné à la fin.
Les stratégies de pouvoir individuelles aussi.
Oui, alors les stratégies de pouvoir, surtout à très très haut niveau. Surtout à très très haut niveau.
Qui peuvent détruire beaucoup de choses.
Mais d'un autre côté, je pense qu'on sous-estime toujours la puissance incroyable du libre arbitre de l'individu, du sujet. Je pense que dans les organisations, qui pourtant sont des lieux qui peuvent être parfois tout à fait contraignants, il y a au quotidien des hommes et des femmes qui sont toujours prêts, quotidiennement, partout, à mettre leur intelligence au service d'une transgression intelligente des contraintes. Et qu'est-ce que c'est dans le fond que l'innovation ? C'est une transgression qui a réussi.
Oui, l'innovation est une réussite. L'innovation se diffuse en ce moment, mais on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer en France aussi. Il y a beaucoup encore de résistance. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises, aux nouvelles générations? Quelle posture aujourd'hui à apporter pour qu'il y ait un peu cette résilience au sein des entreprises?
Disons que la première question que de toute façon les entreprises devraient se poser, c'est la question de l'expérience vécue par les hommes et les femmes qui travaillent chez eux. Je crois qu'un dirigeant d'entreprise, quel que soit son niveau, devrait tous les matins se poser la question, mais dans le fond, c'est comment de travailler chez moi? C'est comment de travailler avec moi? C'est comment d'être membre de mon entreprise? Quelle est en fait l'expérience vécue par un collaborateur? Le point de départ est là. Plus on rendra l'expérience vécue par les collaborateurs porteuse de sens, de considération, d'équité aussi, si les gens ont le sentiment d'être traités avec justesse, plus on ira dans cette direction-là, plus on sera même de libérer des énergies.
On dit que les Français sont pessimistes, êtes-vous d'accord ?
Les Français, pour des raisons culturelles qui remontent à loin, en tout cas au moins jusqu'à la création de l'école publique, en tout cas la fin du 19e, nous sommes dans un système d'éducation et même un système d'information, un système médiatique qui survalorise le scepticisme, le doute, l'esprit critique, la déconstruction. On pourrait dire que culturellement, depuis maintenant plusieurs siècles, les Français sont des gens à qui on ne la fait pas. Donc une difficulté parfois à admirer, à s'enthousiasmer trop, et cet esprit critique qui peut parfois nous faire passer pour des hommes et des femmes un peu grognons, un peu ronchons. Mais factuellement, si on était si pessimiste que ça, on ne ferait pas autant d'enfants, on ne créerait pas autant d'entreprises, d'associations, il n'y aurait pas autant d'initiatives. On en a, comment vous dire, je pense que ce qui peut nous tromper parfois, c'est qu'on confond le pessimisme avec le bruit qu'il fait. Je pense que nous faisons parfois un bruit de pessimiste, beaucoup mais notre identité ne l'est pas.
Oui, beaucoup de bruit.
Nous sommes des râleurs, en fait.
Absolument, voilà. Et pour beaucoup, heureusement, des râleurs constructifs. Heureusement.
Merci beaucoup, Philippe Cavillé.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Tendance RH, en partenariat avec JobSphérique.